Salut Raphaël.
Salut Pat.
Donc le gouvernement Biden, le futur gouvernement Biden commence à prendre forme.
Oui, écoute, on a eu une rafale de grosses nominations dans les dernières heures. On va pas faire le tour entier, mais je veux quand même mettre en relief certaines d'entre elles. La première, parce qu'elle est extrêmement importante, c'est celle d'Anthony Blinken, qui devrait normalement devenir le prochain secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, une fois que M. Biden va être assermenté en janvier. Je t'en parle d'abord et avant tout, honnêtement, à cause de son français. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'entendre M. Blinken parler français.
Non.
Mais tu vas avoir la chance dès maintenant, parce que je vais nous faire écouter M. Blinken en entrevue à la télévision française. Donc ça, c'est le futur diplomate, probable diplomate en chef des États-Unis. On écoute ce que ça donne.
C'est la diplomatie américaine qui a pu réunir avec nos partenaires comme la France 65 pays pour combattre Daesh. C'est la diplomatie américaine avec la France qui a eu le succès à Paris sur le COP 20. C'est la diplomatie américaine qui a réuni les pays à travers le monde contre le problème de l'Ebola. Nous voyons la force de cette diplomatie tous les jours à travers le monde. J'espère que pour le peuple américain, qui que soit le président l'année prochaine, ça va continuer.
Comme on disait dans le temps, c'est un parfait bilingue.
C'est un parfait bilingue. Écoute, je ne sais pas pour toi, j'ai déjà hâte personnellement aux futures rencontres bilatérales canado-américaines quand le diplomate américain va mieux maîtriser les deux langues du Canada que le diplomate canadien qui va être là. C'est quand même spectaculaire.
Écoute, je te dirais que ce que j'ai entendu là, c'est plus fluide que Justin Trudeau.
Ben, c'est pas pour rien que je viens de faire la craque que je viens de faire, tu sais. Fait que non, il y a quelque chose d'impressionnant. Et si, il y en a qui se demandent comment est-ce possible, parce que des Américains qui parlent français, c'est rare. Des Américains qui parlent aussi bien français, c'est encore plus rare. Mais c'est que le type en question, c'est un diplomate de formation et a servi quelques années à Paris. Et disons qu'il a appris franchement comme un prodige. Mais il y a plus que ça. Il y a pas simplement le fait que le type parle français. Il y a le fait que ça vient rassurer beaucoup de gens à Washington, parce que clairement, c'est un type, si on veut, de l'establishment. Et M. Biden a effectué une autre nomination de la sorte aujourd'hui également, celle de Janet Yellen, pour servir comme secrétaire au Trésor. Je te la mentionne, elle aussi, pourquoi? Pas parce qu'elle parle français, mais parce qu'elle présidait la Fed sous Barack Obama. Lorsqu'était venu le temps de la faire confirmer au Sénat, t'avais 9 sénateurs républicains qui avaient voté pour la confirmer. Donc, c'est pas une espèce d'équipe de révolutionnaires là, qui s'amène.
Oui.
Mais en même temps, M. Biden fait aussi attention à son flanc gauche en nommant deux hispaniques, donc deux personnes issues des minorités ethniques, pour mener respectivement les services de renseignement et le département de la sécurité intérieure. Et dans le dernier cas, la personne qu'on a nommée pour nommer le département de la sécurité intérieure a fait une déclaration très, très clair au niveau de ce que ça voulait envoyer comme message en disant et en insistant sur le fait qu'il était un fils de réfugié et qu'il allait avoir la cause des réfugiés à cœur. Autrement dit, Pat, je pense pas avoir besoin de te faire un dessin. On veut marquer une très nette rupture avec l'administration actuelle. Donc, c'est un jeu d'équilibriste et à date, c'est très tôt. Évidemment, il y a personne là-dedans qui a encore été assermenté. Mais M. Biden semble assez bien jouer ses cartes.
OK, parle-moi. Il y a l'équipe de contestation juridique là, de M. Trump dans les différents États. Ces gens-là se présentent comme, disons, une équipe d'élite d'avocats, mais ça a plus l'air des sous-doués en vacances.
Ouais, c'est bon, ça, comme expression. Je devrais t'avoler. As-tu entendu, pendant la fin de semaine, la déclaration d'une certaine Sidney Powell, avocate de Donald Trump?
Ben, je l'ai pas entendu live, comme
mais
on dit.
Mais t'en as entendu parler.
J'ai lu ses élucubrations.
Bon, écoute. Là, je précise pour les gens qui nous écoutent qu'il y a rien là-dedans que j'invente ou que je fabrique. Je te donne la déclaration, presque verbatim, de l'avocate, une des avocates principales de Donald Trump dans tout son effort de recomptage, de contestation judiciaire. La semaine dernière, lorsqu'on voyait Rudy Giuliani, là, l'avocat, si on veut, principal de Trump dans tout ça, donner son espèce de point de presse déjanté, elle était à ses côtés. Okay? Donc, on peut pas clamer là qu'elle n'est pas aux premières loges. Elle l'était jusque, littéralement, il y a quelques heures parce qu'on l'a dégommée. Pourquoi? Mais pendant la fin de semaine, elle donne une entrevue dans laquelle elle avance que le gouverneur de la Géorgie qui a donné une très courte majorité, une très courte pluralité, j'aimerais dire, à M. Biden, un gouverneur républicain, aurait accepté des pots de vin de la compagnie canadienne Dominion. Je ne sais pas si tu te rappelles de
ça, c'est la compagnie là, qui fabrique des machines à compter les votes.
C'est ça. Et c'est la compagnie qui était impliquée indirectement dans une erreur humaine dans un petit comté du nord du Michigan, du n'importe quoi avec le avec quoi on avait essayé de casser du sucre au sein de la campagne Trump depuis quelques semaines. Donc cette compagnie-là, pardon, aurait versé des pots de vin au gouverneur de la Géorgie pour lui permettre de falsifier les résultats qui feraient en sorte que Joe Biden serait déclaré vainqueur en Géorgie. Mais ce n'est pas tout. La même compagnie, selon toujours Mme Powell, avocate de Donald Trump, aurait aussi été de mèche avec Hugo Chavez, il y a 15 ans, pour truquer les élections au Venezuela. Et la même compagnie, doit-on le rappeler, d'origine canadienne, serait également associée à la CIA. Fait que là, écoute, t'as
donc
ça
c'est le complot
sort.
Communiste contre Trump.
C'est le complot de tous les complots, de tous les complots. C'est de la pire, de la pure, pure folie.
Ben, ce que tu me dis, c'est que cette femme-là cadrait parfaitement là, dans l'entourage de Donald Trump.
Jusqu'à temps que même elle dépasse les bornes.
Mon Dieu.
Justement, qu'est-ce que ça a pris? Je sais pas, ça a été quoi l'élément dans cette histoire-là qui était considéré comme étant too much pour l'équipe de Trump, mais elle s'est fait dégommer. Mais voici pourquoi je t'en parle. Parce que c'est pas simplement pour l'aspect tape à l'œil de ça. C'est que aujourd'hui également est sortie une enquête nationale qui révélait qu'en fait, pour les électeurs de Donald Trump, et doit-on le rappeler, il y en a eu plus de 70 millions il y a à peine 3 semaines,
oui.
C'est 79% qui croient que l'élection de 2020 a été décidée à cause de la fraude et des votes illégaux. C'est du monde à la messe, là. Et c'est presque la moitié, un peu plus de 40% d'entre eux. Donc, on parle de dizaines de millions de personnes, là, qui estiment, qui croient que leur vote à eux, leur vote personnel, là, a été mal compté. Fait que, évidemment, on peut être estomaqué devant la folie de déclarations d'avocats et d'avocates de Donald Trump, mais en même temps, ce message-là que le principal intéressé martèle depuis des mois, là, ben force est de constater que 3 semaines après le scrutin, il a percolé et pas à peu près, et qu'il a été imbibé. Et c'est grave. D'un point de vue démocratique, c'est grave.
On s'en parle demain. Merci, Raph.
À demain.